Alors juste un mot pour remercier ceux qui nous ont conduits dans cette méditation qui a abordé un sujet tellement essentiel, la patience. Nous en discutions hier soir jusqu'à une heure avancée de cette patience. Pour vous faire sourire, c'est quelqu'un qui priait, « Seigneur, donne-moi la patience, mais fais vite, s'il te plaît. » Oui, nous avons besoin de cette patience et d'être formés à l'école de la patience et ensuite, ayant appris la leçon, de mettre en pratique cette leçon. Juste encore un mot, je vais faire long, mais pour remercier ceux qui étaient informés que j'étais en Algérie pendant une petite quinzaine de jours, vous remercier pour ceux qui ont prié, et ceux qui étaient informés et qui ont prié. Et voilà, prions pour cette église en Algérie qui passe par des moments difficiles et pour qui, oui, effectivement, la patience est mise à rude épreuve. La patience, pouvoir un jour, pour certaines églises, d'être à nouveau ouverte pour célébrer le culte. Ce qui nous paraît, nous, anodin. On vient ici, on ouvre la porte, on pousse et on entre. Et quoi de plus banal pour les chrétiens? Pour eux, ils ne peuvent pas. Ils ne peuvent pas. Voilà. J'aimerais aborder avec vous un thème dont le titre fait l'objet d'une série que j'ai intitulé « Du jardin des délices au jardin des désirs ». J'avais presque envie de transformer le dernier mot pour mettre « Du jardin des délices au jardin des délires ». Puisque vous savez que ce jardin d'Éden qui nous est décrit au chapitre 1 de la Genèse se termine, en tout cas le premier chapitre de la Genèse, chapitre 3, se termine par un désastre dont nous subissons encore aujourd'hui les conséquences. Alors, je n'irai pas jusqu'au délire, ni jusqu'au désir, mais nous arrêterons en tout cas sur le jardin des délices. Et je vous invite à ouvrir votre Bible, et ce matin, réjouissez-vous, vous n'allez pas avoir de problème pour trouver la lecture que je vous propose. Ce n'est pas dans le livre d'Habacuc, ce petit prophète qu'on a toujours du mal à trouver, par-dessus lequel on passe en général assez vite. Donc vous ouvrez votre Bible, tout au début, alors vous sautez la table des matières bien sûr, hein, et vous arrivez donc au livre de la Genèse au chapitre 1. Et comme j'aime bien faire participer mon auditoire, pour deux raisons, parce que je trouve que c'est plus sympathique hein, pour l'auditoire de participer. Et puis, deuxième raison, c'est comme ça, vous ne vous endormez pas pendant la lecture. Je vous propose de lire ensemble, chacun un verset, en lisant la création d'un jour. Alors, je sais que vous avez des masques, hein, nous n'en sommes pas pourvus, nous. On a perdu un peu cette habitude, il faudra peut-être un jour la reprendre, mais dans nos églises, voilà, c'est plutôt sans masque, mais c'est bien d'être prudent. Donc, je sais que vous avez des masques, mais vous allez essayer de projeter votre voix ou d'enlever tout simplement le masque pendant que vous lisez le texte, de manière à ce que, voilà, chacun entende. Donc, lisez à haute et intelligible voix, comme disait mon professeur d'homilétique. Voilà, je vous propose d'aborder notre méditation de ce matin avec quatre points. Le Dieu unique a tout créé, la parole et des actes, Dieu et lumière, et nous terminerons par une parole d'espérance. Ce chapitre de la Genèse a fait, comme vous le savez, couler beaucoup d'encre et de salive, tout simplement parce que, me semble-t-il, on s'est trompé d'objet, de but concernant ce chapitre de la Genèse. Quelle est l'utilité de ce chapitre de la Genèse? Certainement pas de nous indiquer comment la Terre et l'univers a été créé. Mais qui l'a créé? C'est certainement le but, et en décrivant ou en affirmant, comme nous le verrons tout à l'heure, l'auteur de cette création, celui qui a écrit la Genèse, probablement Moïse, a un but, c'est lui de nous montrer la grandeur, la puissance et la générosité de Dieu. Et quand nous lisons ce chapitre, nous voyons que cette générosité de Dieu, cette bonté de Dieu, elle éclate dans le moindre recoin des versets qui décrivent la création de l'univers. L'auteur, nul besoin de le dire, n'est pas un scientifique, mais il est loin d'être un idiot. Il opte pour une rédaction, et écoutez-moi bien, littéraire. Je n'ai pas dit littéral, mais j'ai dit littéraire. Il structure son récit en 7 tableaux que composent justement ces 7 jours. Et vous savez, ou bien vous allez apprendre, que les septennaires sont quelque chose de souvent utilisé, et notamment dans un livre biblique. Et je vous oriente vers un livre du Nouveau Testament. Pensiez-je dire, hein, comme ça, pouvoir me reposer, attendre que Nordine ait fini son petit laïus, et puis pourra passer à la gamme qui suit. Ouais. Exactement. Les septennaires, pardon, les septennaires reviennent sans cesse dans le livre de l'Apocalypse, les 7 coupes, les 7 sceaux. Exactement. Cette cavalier revient régulièrement. Sept tableaux, donc, dans la Genèse, qui constituent donc les 7 jours de la création. Alors, on s'est creusé la tête, en combien d'heures c'est 7 jours? Alors, certains ont dit, c'est 24 heures. Et 24 heures, une heure de 60 minutes. D'autres ont dit, mais non, le sens, en fait, en hébreu, peut vouloir dire période. Et donc, quand on dit période, on ne sait pas combien de temps exactement cela a duré. Alors moi, je pense, avec d'autres, qu'il s'agit bien de 7 jours de 24 heures, mais pris dans un sens symbolique. Pris dans un sens symbolique. C'est-à-dire qu'en fait, Moïse utilise tout simplement des points de repère que connaît le peuple. Et le peuple connaît que sa semaine est divisée, en fait, en 7 jours. Et il prend donc ces 7 jours qui composent la semaine du peuple pour, en fait, le rapporter au travail de Dieu. Mais 7 jours, je le répète, de manière symbolique. Alors, on va voir pourquoi quels sont les éléments qui nous permettent justement de considérer ces 7 jours de la création comme étant symboliques. Nous allons le voir. Le premier, vous allez le découvrir tout seul, avec une petite interrogation quand même, hein. Pas venu pour rien. 7e jour, qu'est-ce qui se passe le 7e jour qui ne se passe pas les autres jours? Pardon? Il se repose, oui. Mais il y a quelque chose encore de plus subtil. Qu'est-ce qui rythme les 6 jours précédents? Je vous aide là. Hein. Pardon? Alors il y a le travail, ça c'est ce qui distingue, oui.
Il considéra que c'était bon.
Il considéra que c'était bon. Il y a un autre élément encore, vous y êtes presque là.
Il crée, tous les jours précédents, il crée les choses.
Oui, il y eut un soir et il y eut un matin. Et le 7e jour?
Il
n'y
en a pas.
Ce 7e jour ne se termine pas. Ce qui veut dire que nous sommes aujourd'hui encore dans le sabbat. Dans le jour de... On ne dirait pas, hein. Mais dans le sabbat, qu'est-ce que c'était? C'était en fait d'entrer dans la présence de Dieu. Et l'homme était destiné justement à une communion perpétuelle avec Dieu. Et cela a été fracturé par le péché. Aujourd'hui, dit l'auteur de l'Épître aux Hébreux, si vous entendez sa voix, approchez-vous et entrez dans mon repos. Et littéralement, c'est entrer dans mon sabbat. Et aujourd'hui, tous les chrétiens qui ont mis, tous les hommes et les femmes qui ont mis leur espérance en Christ, aspirent à entrer où ? Dans ce sabbat, qui sera la perpétuelle adoration, communion avec notre Dieu, sans tache ni ride. Voyez que le symbolisme, alors on verra, qu'il n'y a pas que ça, mais cet élément montre bien qu'il y a un symbolisme fort dans cette création. Savamment calculé, le texte est rédigé dans la contemplation de l'œuvre achevée. En quelque sorte, l'auteur de la Genèse, en fait, il fait une prédication. Et bien souvent, nous considérons ça non pas comme une prédication, mais comme un cours de biologie et de physique. C'est une prédication. Et une prédication qui a pour but de nous encourager, de nous orienter. Vers où ? Mais vers l'adoration de notre Dieu. Et une prédication qui n'a pas pour but de nous encourager, de nous orienter vers l'adoration de notre Dieu, ce n'est pas une prédication, c'est un discours philosophique. Creux. Intéressant. Mais qui ne nous conduit pas dans la présence de notre Dieu. L'auteur s'attache, avec une subtilité pédagogique, à décrire son Dieu au travers de sa puissance créatrice. Et si ce récit qui fait couler tant d'encre et de salive, justement, n'était qu'un chant d'émerveillement d'une créature devant son Créateur, ayant, comme je le disais tout à l'heure, comme seul souci d'inviter tout un peuple à le célébrer avec lui. Je répète, j'aime bien la pédagogie, moi. Un récit en sept tableaux, un récit qui culmine vers le sabbat, ce septième jour qui ne se termine pas, un symbolisme pour nous aider à comprendre l'inaccessible. Jésus utilise souvent le symbole pour nous aider à comprendre, nous aider à saisir. Et c'est pas parce que c'est du symbolisme que ce n'est pas inspiré, n'est-ce pas ? Un récit qui est un chant d'émerveillement d'une créature devant son Créateur, ayant un seul but, inviter tout un peuple à célébrer avec lui la grandeur du Créateur. Que dit ce psaume, mais tant d'autres ? Les cieux proclament combien Dieu est glorieux, l'étendue céleste publie l'œuvre de ses mains. On pourrait rechercher tous les psaumes qui acclame Dieu, le Dieu créateur, au travers de ce qu'ils perçoivent de la création. Oh. Nous étions, il n'y a pas très longtemps, avec Muriel au bord du lac Léman. Allez, je vous dis un secret, nous fêtions nos 46 ans de mariage. Hein, pas beau ça ? Eh bien, en général, on est bien allé dans ce restaurant au bord du lac Léman quand il fait beau. J'étais un peu déçu parce que c'était gris. Mais pendant les deux heures que nous avons passées à cet endroit, c'est comme si Christian avait fait des photos, il passait un PowerPoint des photos et cliquait à chaque fois. Il y avait à chaque fois un tableau différent. Oh. Ciel gris, et tout à coup, une trouée dans le ciel gris qui nous permet de méditer un texte, espéré contre toute espérance. J'aime beaucoup ce texte. La création de Dieu, même quand elle n'est pas tout à fait comme nous l'avons imaginé, nous surprend par sa beauté, par sa créativité, par son extraordinaire capacité à créer des choses qui nous émerveillent encore. Nous sommes allés en Grèce. Je vais vous faire envie, hein. Dans le Péloponnèse. sur ces montagnes, et puis tout à coup, une route qui débouche sur la mer Égée. C'est juste fantastique. C'est juste fantastique. Nous avions l'habitude d'aller dans le Kera. Ça vous dit quelque chose, le Kera, dans les Hautes-Alpes, en hiver. Oh. Des montagnes enneigées. Et les montagnes qui se découpent, telles des dentelles, sur un fond de ciel bleu. Alors moi, je suis un peu dérangé, quelquefois. Et là, au milieu de cette vallée du Keras, qu'est-ce que je fais? Je ne me gratte pas la tête. Attends, combien d'années, de millénaires, ces montagnes ont été faites? Comment, qui a poussé pour que ça plisse autant? Non, qu'est-ce que je fais? Je dis merci Seigneur. Je le fais plus fort, je ne vais pas vous faire peur. Hein. Dans cette vallée, merci Seigneur. T'es le seul dans cette vallée. Il n'y a pas eu d'avalanche, je vous rassure. Et je me suis pas fait embarquer dans un asile psychiatrique. C'est extraordinaire. Mais voilà, en fait, si je vous raconte tout ça, ce n'est pas pour vous raconter nos vacances, hein, c'est surtout pour vous dire, en fait, tout simplement, là où veut nous amener l'auteur de la Genèse, de ce chapitre 1, à adorer notre Dieu. Les cieux proclament combien Dieu est glorieux. L'étendue céleste publie l'œuvre de ses mains. Et donc, j'aimerais avec vous vous inviter à vraiment considérer les éléments dans ce texte. Il y en a plusieurs, mais j'en ai fait, dû faire un choix, qui vont nous conduire justement à adorer Dieu, le Dieu unique à tout créer. Ça paraît une banalité, mais c'est tellement important. C'est ce que Moïse veut affirmer de manière massive tout au début de son texte, tout au début de sa prédication. Il proclame que le Dieu unique a tout créé, le Dieu unique. Sa formule est nette et sans appel. Au commencement, Dieu. Il résume en une formule dense une réalité tellement importante. Non seulement pour le peuple d'Israël, environné de nations païennes, aux dieux multiples, mais aussi pour nous rappeler qu'il n'y a qu'un Dieu, un seul et unique, de qui dépend toute la création. Le monde n'a de commencement, n'a de contenu que parce que Dieu a créé. Il est le seul, l'unique créateur. Et nous devons rajouter le seul capable de créer. Et le verbe créer est utilisé avec parcimonie. Il aura dans le texte biblique comme seul sujet Dieu. Ce qui veut dire que sans Dieu, tout est vide. Il est le début de toute chose. Et rien ne vient, je dis bien, sans que ça ne soit voulu par lui. Tu as créé toute chose, dit Jean dans son Apocalypse. Et par ta volonté, tout a reçu l'être. Une autre traduction, c'est par ta volonté qu'elles existent et qu'elles furent créées. En trois mots, l'auteur nous plonge dans le thème de la puissance unique et de la totale souveraineté de Dieu. Une souveraineté de Dieu sans laquelle rien ne peut se déployer, rien ne peut se faire. Souveraineté de Dieu sous laquelle tout ce qui va advenir se déploie. Souveraineté de Dieu. Chaque fois que l'on prie au début du repas, qu'est-ce que nous proclamons? Nous dépendons de Dieu, n'est-ce pas? Pour les biens de ce monde. Et nous remercions Dieu de manière indirecte, peut-être de manière inconsciente, pour sa souveraineté qui pourvoit à tous nos besoins. Cette souveraineté de Dieu, quand elle nous sauve de telle ou telle situation désastreuse, quand elle nous conduit vers des chemins parsemés de fleurs, sous un ciel bleu, c'est fantastique la souveraineté de Dieu, n'est-ce pas? Nous sommes prêts à la louer, à la glorifier. Mais quand tout à coup cette souveraineté nous en conduit sur des chemins difficiles, parliez à Anne et David, de la souffrance, de l'épreuve qui inéluctablement arrivent tôt ou tard. Nous sommes moins enclins à célébrer cette souveraineté, n'est-ce pas? Nous posons des questions parce que cette souveraineté est déstabilisante, elle nous prend un contre-pied. J'ai en tête, et je le dis souvent, et peut-être l'ai-je déjà dit ici, vous savez, quand on arrive à mon âge, on radote quelquefois, on revient, vous savez, je ne me souviens plus de ce qui a été dit, pas dit. J'ai en tête la phrase de mon beau-père, qui à la mort de son fils, le frère de Muriel, quand je l'ai vu la première fois, après la mort de son fils, dit « Dieu sait ce qu'il fait ». Dieu sait ce qu'il fait. C'est quoi? C'est le déni de la souffrance. C'est le déni de l'épreuve. C'est la méthode Coué? Pas du tout. C'est l'acceptation de la souveraineté de Dieu, même quand cela nous désarçonne, nous arrache les tripes quelquefois. Que dit Job? Que tu as cité, Anne, lorsque il perd tout. Dieu a donné, Dieu a repris, béni soit le nom de l'Éternel. Je ne sais pas vous, moi je ne sais pas si je serai capable de répéter ni la phrase de mon beau-père, ni la phrase de Job. Mais que disent-ils? Mais tout simplement, ce que dit Moïse au travers de ce récit, c'est qu'il affirme que rien n'est possible sans la souveraineté de Dieu. Que sans la souveraineté de Dieu, ni vous ni moi ne serions ici. Ni vous ni moi ne pourrions louer le Seigneur. Ni vous ni moi ne pourrions tout simplement célébrer notre Dieu. C'est la souveraineté de Dieu qui nous conduit là où nous en sommes. Il n'y a pas de vie sans la totale souveraineté du Créateur. L'acte du Créateur n'est pas une simple pichenette qui serait à l'origine de la création, mais une organisation minutieuse et harmonieuse, pensée jusque dans les moindres détails. Rien n'est laissé au hasard, au choix capricieux d'une certaine évolution. Je ne dis pas que l'évolution est impensable. Je dis qu'elle est, s'il y a évolution, j'en sais de rien. Elle est conduite par la souveraineté de Dieu. Et dès ses premières lignes, l'auteur nous donne déjà une idée du cadre dans la vie, dans lequel la vie peut s'éclore. Et sans cette souveraineté de Dieu, rien n'existe et rien ne peut subsister. Que dit Paul? C'est en lui que nous avons le mouvement, la vie et l'être. Que disent les apôtres à Jésus? Où irions-nous, Seigneur? Tu as les paroles de la vie. Qu'est-ce que veut dire cette phrase? Sinon, tout simplement, la reconnaissance de la souveraineté de Dieu, qui est le seul capable à créer la vie ou à la recréer. En dehors de cette souveraineté, la vie ne peut pas subsister. C'est une vie imaginaire. Une illusion, un mirage. C'est vers cet imaginaire que le serpent tentera avec succès d'attirer Ève et Adam. Vous serez comme des dieux. Et qu'est-ce que vouloir être un dieu, si ce n'est échapper à la souveraineté du véritable Créateur, du Dieu unique? C'est la tentation de beaucoup, en tout cas de nos contemporains aujourd'hui. Cette pseudo-vie dans laquelle la souveraineté ne s'exercerait pas et n'existe tout simplement pas. Premier point donc, le Dieu unique a tout créé parce qu'il est souverain. La parole et des actes, deuxième point que j'ai choisi de mettre en avant, tiré bien entendu de ce récit. Et comme pour enfoncer le clou, l'auteur ponctue son récit par un refrain. Quel est-il ce refrain? J'espère que je vous ai toujours avec moi. Dieu dit, et les choses arrivent. Exactement. Rien ne résiste à son commandement, tout se plie à son décret. Et l'auteur nous invite à contempler la totale maîtrise que Dieu possède sur tout événement. Aucune parole venant du Créateur ne reste sans effet. Je vais vous faire une révélation. Dieu ne parle jamais pour ne rien dire. Dieu ne parle jamais pour ne rien dire. Ce qu'il dit, il le fait. Contrairement à moi, ne me dites pas que je suis tout seul, j'ai un moment de solitude derrière la serre. Non, hein? Nos épouses, pour ceux qui sont mariés, nous font une liste de tout ce que nous devons faire. Et je le ferai, chérie, demain. Demain. Demain, on rase gratis. Vous connaissez un peu cette publicité. Dieu, lui, quand il dit, il fait. Ses promesses sont certaines. Elles se réalisent. Elles se réaliseront à un moment donné ou à un autre. Mais l'auteur est plus subtil que cela. Ce qui pourrait passer pour une certaine forme de candeur qui nous montrerait un Dieu créé sans effort, présente un Dieu qui ne reste pas muet. Non. Par sa parole, Dieu se dévoile. Il communique quelque chose de lui-même. Un Dieu parfaitement cohérent. Cohérent. Nous l'avons dit, ce qu'il dit, il le fait. Sa parole n'est pas une parole vide, mais une parole pleine de sens. C'est une parole pleine de sens. Nous avons dit amen tout à l'heure à cette patience si importante dans l'Église. Qu'est-ce qu'on va en faire? Qu'allons faire de cet élément, de ce fruit de l'Esprit? Pas de ce fruit de l'Esprit, de cette partie du fruit de l'Esprit. Qu'allons-nous en faire? Allons-nous nous en saisir? Dieu donne du sens à ce qu'il dit. C'est une parole de vie qui annonce la vie et crée la vie. Et Dieu montre son cœur, il montre son intelligence, il montre sa beauté de sa création et l'harmonie qui l'accompagne. Mais il prépare déjà la communication de lui-même qu'il fera en parlant aux hommes. Car cette parole créatrice, cette parole puissante, a un nom. Quel est le nom de cette parole?
Jésus.
Jésus, le Christ, le Fils de Dieu. Nous le comprendrons quand cette parole se fera entendre jusque dans les abîmes du monde déchu pour annoncer une nouvelle création. Et cette parole de Dieu prend un visage, celui du Fils de Dieu. Au commencement était celui qui était la parole de Dieu. Il était avec Dieu, il était Dieu lui-même. Au commencement, il était avec Dieu. Tout a été créé par lui. Rien de ce qui a été créé n'a été créé sans lui. Et ce texte est comme un jeu de miroir qui nous renvoie à la présence active du Fils dans la création, comme celle de l'Esprit de Dieu planant au-dessus des eaux. Dans ces passages qui nous renvoient au baptême de Jésus, dont l'apparition de l'Esprit, toujours sous la forme d'un oiseau, nous annonce la nouvelle création. Souveraineté de Dieu, Dieu créé, c'est un sens. des paroles et des actes. Tout ce que Dieu dit, il le fait. Dieu est lumière. Tel un prélude, un feu d'artifice, c'est d'abord la lumière qui surgit. Étonnant, non ? Il n'y a pas une petite anomalie, vous, dans ce récit de la création ? Je vous ai déjà perdu. Non ? Hey, petite anomalie, là. C'est un quiz ce matin. Petite anomalie, lumière. D'où nous vient la lumière ici ? Pourquoi il fait jour ? Parce qu'il y a le soleil. Il y a le soleil, là, dans l'heure de la création ? Mais il vient plus tard. Donc il y a une lumière sans le soleil, il y a une lumière sans lune, il y a une lumière sans étoile. Curieux. Curieux seulement pour ceux qui ne verraient dans ce récit que le déroulement chronologique de la création. Et qui oublieraient que l'auteur, au cœur de ce texte littéraire, nous livre une théologie. La lumière ne dépend d'aucune étoile, pas même de celle du soleil. La lumière dépend de Dieu lui-même. C'est de lui, et nous pourrions dire de sa parole, que la lumière surgit. Et par cette affirmation, l'auteur s'oppose au culte égyptien en vigueur, dont la pratique était tournée vers l'adoration du Dieu soleil. Ce n'est d'ailleurs pas sans arrière-pensée que quelques versets plus tard, l'auteur, pour nommer les étoiles et tous les astres, utilisera le mot « luminaire », que nous pourrions traduire, mais de manière vraiment sérieuse, par « lampadaire », ou alors, en français courant, par « loupiote ». C'est comme ça que nous pourrions le traduire. Traiter ou nommer ces étoiles par un mot qui correspond à notre mot loupiote, c'est ramener ces astres vénérés à de simples petites étincelles. À tous ceux qui seraient tentés tout simplement d'adorer ces astres, de vénérer par leur culte ces astres, l'auteur Moïse affirme que la véritable lumière est dans le Créateur. La source de toute vie, elle est là, nulle part ailleurs, certainement pas dans ces loupiotes que vous adorez, devant lesquelles vous vous prosternez. Sans la lumière de Dieu, il n'y a qu'obscurité et ténèbres. Jésus, lui encore, nous rappellera l'un des attributs essentiels, au sens étymologique du terme, que Dieu est lumière. Car le Dieu qui a dit « Du sein des ténèbres ira la lumière » a fait briller la lumière dans notre cœur pour que resplendisse la connaissance de la gloire de Dieu sur le visage du Christ. Les astres passeront. Le soleil un jour s'éteindra. Et vous savez, dans la nouvelle création que nous dit Jean, il n'y aura plus de soleil. Qui sera le soleil ? Dieu. Et Dieu ne reste-t-il pas toujours le même, hier, aujourd'hui, éternellement ? La lumière, dans la suite des récits bibliques, sera synonyme de présence de Dieu. C'est Isaïe qui dira « Venez, venez, marchons à la lumière de l'Éternel ». Dis pas « marchons sous le soleil », hein ? Non ? Marchons à la lumière de l'Éternel. N'est-ce pas sous forme déjà d'une lumière que Dieu guidait son peuple dans le désert ? Ta parole, dit le psalmiste, dit David, est une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier. Oui, la lumière composée de protons et de photons est source de vie physique, mais il y a une lumière plus intense encore, qui émane du cœur même de Dieu et qui est essentielle pour la vie de chacun d'entre nous. Et c'est ainsi que Paul, dans sa deuxième épître aux Corinthiens, l'a compris, en comparant l'homme non régénéré au chaos primitif et la nouvelle naissance à cet ordre donné par le Dieu créateur. La lumière et vie, à plus d'un titre, sa place tout au début de la création n'a donc rien de surprenant. Une parole d'espérance, et c'est avec ce dernier point que j'aimerais terminer. Mais pas sans vous poser une dernière question, quand même. Dernière question. Quel est le rythme? Quelle est la phrase qui rythme la création ou la fin de chaque journée? Pardon ?
Je dis que c'était
bon. Oui, ça c'est une chose qui conclut. Il y eut un matin et un soir. Vous auriez fait ainsi, vous ? Intéressant, vous auriez dit quoi ? Il y eut un matin et un soir. Pas du tout ça que dit Moïse. Il inverse les choses. Cette séparation du jour et de la nuit offre donc le cadre qui rythme chacune des journées de la création. Il y eut un soir, il y eut un matin. Et ils ne sont pas à confondre. Deux choses différentes. Le rythme de la vie se cale aussi sur cette réalité. On ne l'oublie pas parfois sans en payer les conséquences en matière de santé, hein, ceux qui confondent le jour et la nuit. N'est-ce pas? Il n'y a pas beaucoup de jeunes ici, mais des jeunes en particulier, sur leur iPhone, sur leur smartphone, jusqu'à 2h, 3h du matin. Et quand on les réveille, oh, je suis fatigué, moi ce matin, je n'ai pas trop envie de me lever. Moi. Mais comme je disais, ce qui est de constater que là, on serait en droit d'attendre que ce rythme commence par le matin et se termine par le soir. Le rythme est inversé, comme si l'auteur préparait déjà l'annonce d'une espérance à venir. Comme s'il voulait nous dire que la lumière aura le dernier mot sur le soir. Que les ténèbres seront chassées par la lumière. Question, n'anticipe-t-il pas ce fameux soir qui enveloppera la tragédie humaine de la désobéissance. Quand est-ce que Dieu vient chercher l'homme dans le jardin d'Éden ? Le soir. Oui, c'est un soir que Dieu vient chercher l'homme et la femme et lui pose cette question : où es-tu ? Quand est-ce qu'on viendra arrêter le Christ ? Un soir. Qu'est-ce qui enveloppera la croix au moment de la crucifixion ? Les ténèbres. Les ténèbres. Ce sont les ténèbres qui envelopperont la terre lorsque le Fils de Dieu livrera son dernier soupir. Le soir vient sur l'humanité. Il vient de manière inexorable, lentement, sûrement. Mais tout aussi sûrement le matin qui vient et qui annonce une nouvelle espérance. Alors notre nuit sera chassée par les rayons lumineux et chaleureux du matin de toutes nos espérances. Car à quel moment a eu lieu la résurrection ? Le matin. Le matin. C'est bien le matin et non le soir que le Christ est revenu à la vie. Et a triomphé des ténèbres pour qu'aucune de nos vies ne se termine par un soir. Je ne sais pas quels sont vos moments par lesquels vous passez. Je ne connais pas toutes vos épreuves, vos difficultés. Je connais un peu celle de l'Église dans son ensemble. Mais ce que j'ai entendu ce matin me donne à espérer. Mais sachez une chose. c'est que si Christ est venu dans votre vie, s'il a illuminé votre vie, sachez qu'aucune de vos nuits n'aura le dernier mot. La lumière, le jour, tôt ou tard, brillera, parce que le Christ est venu ancrer dans l'histoire de l'humanité une espérance que rien, absolument rien, ne peut assombrir. Par sa création, Dieu manifeste non seulement sa puissance, mais toute sa souveraineté. Ce n'est donc que dans notre soumission à celle-ci que la vie est possible. Nous sommes appelés à dépendre de sa lumière. Et c'est de cette dépendance que nous permettra de vivre dans sa proximité, en sachant que nos nuits, aussi épaisses soient-elles, n'auront pas le dernier mot. Amen. Je vous propose un temps de silence, mais aussi ceux qui veulent exprimer leur prière à notre Dieu puissent le faire aussi dans ce temps de méditation.